Il faut s'imaginer qu'en période d'heure de pointe, on peut avoir 500 trains qui circulent simultanément et qui ont des besoins de puissance qui sont complètement différents. On doit toujours se veiller, lorsqu'on gère un réseau, d'avoir un équilibre entre la production et la consommation.
Les CFF vous souhaitent la bienvenue et un agréable voyage dans leur podcast.
Est-ce que vous avez déjà vu un train des CFF dans une station-service ? Non, bien sûr, puisque les trains n'utilisent pas d'essence en principe. Alors, quel est leur carburant ? Comment fonctionne une locomotive ? Comment fonctionne un train ? Est-ce qu'on peut conduire une locomotive de façon écolo ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ici Monsieur Énergie des CFF, Nicolas Écoffet. Nicolas Écoffet, bonjour.
Bonjour.
On va tout de suite commencer par une question un petit... Ah. Je crois que ça commence pas très bien parce que tout est noir. Pour ceux qui ont pas la vidéo, le studio est tombé dans le noir. On a, je crois, une panne de courant. Je vais en profiter pour te poser la première question de ce podcast. C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible qu'au CFF, on ait une panne de courant générale et que plus un seul train ne circule?
On a un système de production et de distribution qui est sérieux, qui est stable, qui fonctionne bien. Mais finalement, une panne générale, on ne peut pas l'exclure complètement. Moi, je me souviens des images de juin 2005, lorsqu'il y avait la panne de courant générale au CFF. Il y avait des clients et des clientes qui étaient assis sur le quai de la gare avec les jambes qui pendaient dans le ballast. Pendant de nombreuses heures, il n'y a plus aucun train qui a circulé. C'est des images qui ont vraiment fait le tour du monde. Hein. Je crois toi-même, tu as eu des retours du Japon ou de Chine par rapport à ces images-là. Depuis, on a investi dans le réseau, hein. On a créé des redondances. Ces redondances nous permettent d'alimenter les endroits qui seraient touchés par une panne avec d'autres lignes à haute tension. Et puis, on a aussi un système de commandes à distance, une sorte de centrale d'engagement qui nous permet d'observer, de monitorer, de commander toutes nos installations de production électrique et de distribution électrique. Si tout d'un coup, on a une usine électrique qui tomberait en panne ou une installation électrique qui aurait un défaut, on pourrait à distance réagir très vite et puis donner un ordre de production à une autre usine électrique pour pouvoir compenser le manque qui pourrait se produire sur le réseau. Donc beaucoup de mesures qui sont faites, qui sont prises à l'arrière-plan pour pouvoir gérer des impondérables, des aléas, mais on ne peut pas l'exclure complètement.
Donc ça veut dire qu'en principe, on ne devrait plus voir ces images qui avaient fait le tour du monde à l'époque de dizaines, de milliers de personnes qui étaient dans des gares vides avec des trains arrêtés partout. Ça devrait plus se faire parce qu'on a quand même maintenant des systèmes de redondance, c'est bien ça. Hein.
D'un point de vue journalistique, peut-être c'est dommage, mais d'un point de vue d'exploitation, non, en tout cas pas, on ne les verra plus.
Ah ben je crois que pour les clients, oui, c'est sûr. Ensuite, je me souviens qu'à l'époque, une des grosses difficultés, ça avait été de remettre en fin de compte du courant. Parce que c'est pas comme quand on a un fusible à la maison qui lâche, on remet un autre fusible et ça repart et tout repart d'un coup. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu principal, c'est de faire redémarrer en fin de compte tous ces trains les uns après les autres. Comment ça fonctionne, ça?
Oui, exactement, c'est ça l'enjeu principal. Il faut voir maintenant... Si ça devait arriver, on calculerait maintenant à peu près avec 2 heures pour une remise en service. 2 heures, c'est peu par rapport à l'époque. Et quand on regarde aussi à ce qui s'est passé en Espagne et en Portugal l'année passée, il a fallu beaucoup de temps aux opérateurs électriques pour pouvoir rétablir le réseau. Donc 2 heures, c'est déjà une bonne performance.
Pour un client, ça fait long, 2 heures.
Hein, justement, je voulais y venir. Effectivement, si pendant 2 heures, aucun train circule, là, c'est long, et c'est très long même. Donc, on travaille dessus et on a l'ambition de pouvoir remettre le réseau en service en 5 minutes. On va faire des tests cette année. Hein, on a fait des tests d'un point de vue théorique. On va faire des tests pratiques aussi cette année. Et j'ai de bon espoir qu'on y parvienne. Et là, si on y parvient, c'est vraiment... J'espère qu'on marquera les esprits. On verra, l'avenir nous le dira.
Bon, sûrement, les tests ne vont pas forcément se faire aux heures du pointe le matin. Ça va être des tests qui vont être un petit peu en dehors du circuit, j'imagine.
Ah, je ne vais pas tout trahir, mais effectivement, les tests ne se feront pas pendant les heures de pointe et à des endroits bien choisis où on peut localiser le problème.
D'accord. Maintenant qu'on a de nouveau du courant, on va peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on fabrique ce courant de traction au CFF. Si j'ai bien compris, pour commencer un peu l'histoire, pour suivre un petit volt, on va dire, un petit volt, une sorte de volt un peu imaginaire, je pense qu'on doit d'abord aller très haut sur les montagnes.
Oui, exactement. En fait, notre courant de traction, on le produit avec de l'eau. Hein, c'est de l'énergie hydraulique. On produit à peu près 2000 gigawattheures par année de courant de traction, 2000 gigawattheures, pour se faire une idée, c'est toujours assez abstrait, ça correspond à peu près à la consommation d'un demi-million de ménages, plus ou moins. Et cette énergie, elle est produite effectivement avec l'énergie hydraulique. On est en été, comme tous les producteurs d'énergie, on est en surplus. Et en hiver, on est plutôt en négatif, donc on est obligé d'acheter de l'énergie sur le marché. Et on achète de l'énergie renouvelable sur le marché pour pouvoir équilibrer notre production.
D'accord. Donc le petit volt, lui, en fait, il est dans une sorte de pile qui s'appelle le barrage, quelque part. Hein. Et puis quand on a besoin, on fait tomber l'eau dans la vallée. Ça fait fonctionner des turbines, et là, la turbine produit de l'électricité. En très gros, c'est un petit peu ça que
c'est exactement ça. On a nos réserves d'énergie qui sont stockées dans les barrages. Les barrages se situent généralement au-dessus, le plus haut possible par rapport à une centrale de production hydraulique. Et l'eau est amenée dans des conduites forcées dans les centrales de production. Et dans ces centrales de production, l'eau, qui vient avec une très forte pression, actionne une turbine. Et cette énergie mécanique de la turbine est transmise à un générateur. Et le générateur, lui, transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. D'accord. Et à partir de ce moment-là, l'électricité qui est produite, elle est transférée à des sous-stations. Les sous-stations, ce sont des endroits où on transforme le courant de haute tension en courant de traction. Et depuis ces sous-stations, on distribue le courant de traction dans les lignes de contact et les trains vont s'alimenter avec leurs pantographes sous les lignes de contact. Donc voilà un peu de manière très très simplifiée le schéma de la goutte d'eau jusqu'au pantographe de nos trains.
D'accord. Petite remarque, je crois que, si j'ai bien compris, le courant des CFF qui fait fonctionner nos trains est 100% écolo.
Oui, on peut le dire. Depuis le 1er janvier 2025, le courant de traction est 100% écologique, donc avec notre propre production. Et puis l'énergie renouvelable qu'on achète sur le marché, on l'achète avec des certificats de production et ça me permet d'assurer la traçabilité de cette énergie qu'on achète sur le marché.
D'accord, là on a notre petit volt fictif, il est arrivé jusqu'à la locomotive. Je te propose d'écouter maintenant Gilles Demierre, on va le retrouver en gare de Lausanne et on va entrer dans cette locomotive pour voir ce qui se passe avec ce petit volt. On se trouve en gare de Lausanne sur la voie 3, on est juste devant une de ces grandes locomotives rouges qui s'appelle une RE460. Je suis avec Gilles Demierre qui est formateur de mécanicien. Et on va un petit peu aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette locomotive. On voit d'abord que le courant arrive par la caténaire et puis par un pantographe. Et après, on va voir ce qui se passe à l'intérieur.
Donc le courant arrive par le fil de caténaire. Donc c'est le fil qui est au-dessus de nos voies, qui parcourt tout notre réseau sur lequel on a le courant électrique qui transite. Il va effectivement rentrer par le pantographe. Hein. C'est donc ce gros archet qu'on voit au-dessus de tous nos trains. Qui permet d'amener le courant dans notre locomotive.
Bah, je propose qu'on monte dans la locomotive et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière toute cette grande infrastructure toute rouge qui s'appelle une locomotive 460. On y va ?
Alors on y va.
On est maintenant dans la locomotive, on est dans la cabine de conduite actuellement. Le train va partir, qu'est-ce qui va se passer derrière la porte qui mène au moteur ? C'est les moteurs qu'on voit là-dedans, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, les moteurs ne sont pas très gros, en fait. Hein. Dans un train quel qu'il soit, le moteur, ce n'est pas la partie la plus grosse. La partie la plus grosse qu'on ait, c'est déjà le transformateur de courant, parce qu'il faut savoir qu'on rentre avec du 15 000 volts, mais qu'on ne va pas envoyer ces 15 000 volts directement dans les moteurs. Et puis, à la sortie de ce transformateur, souvent, il est dessous, maintenant, dans le plancher de nos trains. Ça va aller alimenter des convertisseurs, puis ces convertisseurs-là vont après aller alimenter nos moteurs de traction. Le rôle du convertisseur, c'est simplement de moduler le courant pour envoyer plus ou moins de force dans les moteurs pour qu'on puisse faire avancer nos trains. Une machine comme on a là, une RE460, c'est environ 8500 chevaux. Aujourd'hui, si on prend une voiture électrique qu'on voit sur nos routes, en moyenne, c'est à peu près 300 chevaux. Donc vous voyez le ratio. Bon, après, une voiture électrique, c'est 2 tonnes. Puis nous, notre machine, elle fait quand même 84 tonnes. Hein. Donc il y a un petit peu plus de poids à tracter. Mais la vraie partie des moteurs de traction, c'est pas la partie la plus grosse. On a beaucoup plus d'autres choses encore.
on essaie de décrire un peu ce qu'on voit derrière cette porte-là dans le moteur. Hein. C'est un petit peu comme si on imagine un ordinateur, on met la prise électrique et entre la prise électrique et l'ordinateur, il y a cette petite boîte noire qui est le transformateur. Et là, cette grosse boîte rouge quelque part, c'est ce qui va transformer le courant 15 000 volts en courant pour tracter une locomotive. Simplement, c'est un petit peu plus gros.
Oui, alors c'est largement plus gros que notre ordinateur. Et puis, ben, en fait, il n'y a pas grand-chose à voir parce que dans les faits, on a beaucoup protégé les éléments parce qu'il faut quand même 15 000 volts, c'est quand même beaucoup. Hein. Notre prise de courant, c'est 230 volts. Nous, on a quand même 15 000 volts. Alors là, on est dans un véhicule, on a le droit d'aller dans les compartiments parce que justement, tout est protégé. Mais on va essayer d'aller voir un tout petit peu ce qu'on a là-dedans.
Alors, il y aura un peu de bruit. On est vraiment ici au centre de la locomotive 460, au milieu du transformateur rouge.
Oui, alors on est dans le cœur de la machine. Donc on voit, on a deux grosses armoires qui sont à peu près au milieu de la machine. C'est les fameux convertisseurs de traction qui vont nous permettre de faire deux choses. Donc d'alimenter nos moteurs pour quand on veut avancer. Mais également, quand on est en phase de freinage, ben on va transformer nos moteurs en génératrices. Et puis le courant va passer dans l'autre sens et repartir dans la ligne de contact via le pantographe qu'on a décrit tout à l'heure. C'est ce qui nous permettra d'économiser beaucoup d'énergie aussi quand on roule et tous ces carénages.
Nicolas Ecoffet, j'ai l'impression que quand une locomotive démarre, ça prend énormément de courant. C'est pas juste quand on allume une lampe. Je pense que ça, c'est vraiment un enjeu d'arriver, notamment aussi aux heures de pointe, avoir suffisamment de puissance pour que toutes ces locomotives qui pompent en même temps du courant puissent fonctionner.
Absolument. Notre système, il est d'ailleurs dimensionné sur ces heures de pointe pour qu'on puisse, au moment où on a l'horaire cadencé au CFF et au moment du démarrage des trains, qu'on puisse avoir suffisamment de puissance pour alimenter les trains. D'ailleurs, tu me posais la question tout à l'heure pour la remise en service d'un réseau. Et ça, c'est un des éléments aussi qui apporte une complexité supplémentaire. On a un réseau de production et de distribution d'électricité qui est grand, qui est relativement complexe. On couvre l'entier du territoire. On possède 8 usines hydrauliques. On est en partenariat sur 5 autres usines hydrauliques. On a une centaine de sous-stations ferroviaires, 12 transformateurs de fréquence, 2000 km de lignes de contact. Il faut s'imaginer que en période d'heure de pointe, on peut avoir 500 trains qui circulent simultanément, qui bougent tout le temps sur le réseau et qui ont des besoins de fréquence, des besoins d'électricité, des besoins de puissance qui sont complètement différents. Et on doit toujours se veiller, lorsqu'on gère un réseau, d'avoir un équilibre entre la production et la consommation. Donc si tout d'un coup on ne produit plus, ou respectivement on n'arrive plus à distribuer, il faut qu'on remette cette production en marche de manière complètement synchronisée avec la consommation. Et avec le nombre de trains qui est sur le réseau, et puis tu as vu la puissance dans ces locomotives, ouais. C'est extrêmement complexe, c'est vraiment de la fine horlogerie.
J'ai entendu aussi quelque chose de très intéressant. Alors, maintenant, c'est en plus qu'autre, parce qu'on a de plus en plus de voitures électriques et on voit que quand on freine une voiture électrique, il y a de la production de courant. Et c'est vrai qu'une locomotive, elle ne passe pas son temps à consommer du courant, mais elle peut aussi en produire pour la rendre au réseau. C'est juste.
Hein. Oui, c'est juste, absolument. Alors, on ne la revend pas au réseau. Hein, lorsque les locomotives freinent, on récupère l'énergie, on la remet dans la ligne de contact. Et avec ça, on arrive à économiser, notre collègue mécanicien disait qu'on arrive à une économie substantielle, on arrive à économiser 8% du courant de traction, ce qui, je crois, fait à peu près 20 ou 40 gigawatt-heure, je n'ai plus ça exactement en tête. Mais c'est de l'énergie qu'on ne doit ni produire, ni acheter. Donc c'est un système qui est pour nous très intéressant.
On a beaucoup parlé de l'énergie pour alimenter nos locomotives. On a au CFF d'autres sources d'énergie, j'imagine. On parle beaucoup du solaire, par exemple. C'est des choses qui existent. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part l'énergie hydraulique au CFF?
Alors, on a du solaire et on développe le solaire. On veut diversifier un peu notre portefeuille de production d'énergie. Donc, on a l'ambition d'installer 160 gigawatt-heures d'ici 2040 sur nos installations. 160 gigawatt-heures, ça correspond à peu près à la consommation de 40 000 ménages. Et c'est aussi la moitié de la consommation du courant domestique. On fait la distinction entre le courant domestique et puis le courant de traction. Le courant domestique, c'est celui que tu as dans les prises à la maison. Et on a aussi un besoin au CFF de courant domestique pour nos bureaux, pour nos signaux, pour nos installations de sécurité. Donc à l'heure actuelle, on est en train de recenser toutes les surfaces sur lesquelles on peut installer du photovoltaïque. Ça peut être le toit des gares, le toit des bâtiments, ça peut être les marquises sur les quais. Naturellement, on doit faire attention aussi de ne pas abîmer le patrimoine. Ça peut être sur les barrages, sur les surfaces libres, avec vraiment cet objectif d'installer ces installations de photovoltaïque. Et si tu compares avec ce que tu fais chez toi à la maison, tu installes des installations de photovoltaïque sur ton toit pour alimenter par exemple ta pompe à chaleur. Dans le milieu ferroviaire, c'est plus compliqué. On est dans un milieu de production, il y a des contraintes en termes de normes, des contraintes en termes de sécurité. Donc ça prend un peu de temps pour mettre en place ces installations de photovoltaïque.
Si je comprends bien, le maître mot, c'est en fin de compte l'écologie et la durabilité, en fait. Je te propose qu'on écoute aussi la suite de ma promenade avec Gilles Demierre. Là, on est allé dans la cabine de locomotive et il m'a expliqué qu'on pouvait conduire une locomotive de manière écolo.
Exactement.
On l'écoute. Gilles Demierre, il paraît qu'on peut conduire un train de manière écologique. Comment ça se passe ?
Alors, c'est pas nouveau, hein, la conduite écolo. On a toujours créé nos trains avec une récupération d'énergie en phase de freinage de nos locomotives. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, il y a différents systèmes maintenant qu'on nous a rajoutés au fur et à mesure des développements techniques et des développements technologiques. Hein. Déjà, on a toujours formé nos mécaniciens pour utiliser un maximum le freinage électrique lorsqu'on est en phase d'arrêt ou de décélération. Le but étant de renvoyer du courant dans la ligne et puis de nous permettre de moins consommer d'énergie de nos barrages. Et puis, on nous a rajouté pas mal de choses. On a commencé déjà, mais il y a quelques années, en 2015 environ, avec le ADL, Adaptative Lenkung, ou Régulation Adaptative en français. Donc là, c'est le régulateur qui est au centre d'exploitation. Son rôle, c'est de contrôler que les circulations soient bien à l'heure. En gros, hein, je schématise. Et puis, il peut envoyer des recommandations de conduite au mécanicien de locomotive pour éviter que ce dernier se retrouve arrêté devant un signal rouge. Parce qu'en fait, ce qui consomme énormément d'énergie, c'est de redémarrer. Donc, on peut envoyer, et puis il va envoyer cette recommandation de vitesse au mécanicien de locomotive, une vitesse plus basse que la vitesse maximale, et puis ça permettra, si le mécanicien la respecte, de lui éviter un arrêt supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Ça, c'est déjà un des premiers éléments qu'on a eu depuis 2015 environ. Et puis, au fur et à mesure, maintenant, des développements technologiques, on a rajouté encore différents éléments. Donc sur notre tablette en cabine, où on a nos horaires et puis nos vitesses, hein, on a une colonne qui est affichée sur ma tablette, là, que tu peux voir derrière moi, la vitesse maximale de la ligne, et une autre colonne qui s'est rajoutée, où on a une vitesse optimale, vitesse optimisée, qui est calculée par rapport aux circulations des jours précédents. C'est-à-dire que le même train qui a circulé les jours précédents, il a un horaire optimal qui, pour pouvoir respecter son horaire, et puis des vitesses qui sont plus basses que les vitesses maximales. Puis en roulant moins vite, forcément on consomme aussi moins d'énergie. Et on a encore tout en bas à droite de la tablette, on voit un petit compteur de secondes en général qui nous donne si par rapport à cet horaire et aux vitesses qu'on a faites, si on est plus ou moins à l'heure à quelques secondes près. Et puis si on est en avance, on va rouler un petit peu moins vite que la vitesse optimale. Si on est en retard, on va plutôt tendre à essayer de rouler vers les vitesses maximales. Puis tous ces éléments mis bout à bout font qu'au final, ça nous permet de rouler en économisant énormément d'énergie. Quand on a mis en service en 2015 l'ADL, et puis après encore d'autres optimisations, on a réussi à économiser sur l'année l'équivalent de la consommation de la ville de Berne.
Ouais, c'est quand même impressionnant. Encore une chose, j'ai appris que, contrairement à une voiture, quand on fait Lausanne-Genève en voiture, on peut faire Lausanne-Genève en train, et que là, la locomotive ne va pas tout le temps, entre guillemets, mettre des gaz, ou tout le temps utiliser de l'énergie, c'est juste ça ?
Oui, c'est juste, tout à fait. On forme aussi nos mécaniciens pour qu'ils puissent utiliser ce qu'on appelle les déclivités, donc c'est si ça monte ou si ça descend, en gros. Puis la gare de Lausanne étant plus haute que la gare de Genève, il y a un moment donné, on va pouvoir, en jouant avec ces montées-descentes, éviter d'utiliser du courant. Donc on va laisser le train perdre un peu de vitesse quand ça monte, reprendre un peu de vitesse quand ça descend. Avec un horaire maintenant qui est plus dense, on peut un petit peu moins l'utiliser. C'est pour ça qu'on a ces vitesses optimisées qui sont arrivées. Mais à l'époque, on disait que si on avait une minute d'avance à Gland, donc ça fait un petit bout avant Genève quand même, hein, on coupait, on faisait plus rien et on arrivait à l'heure à Genève et à la bonne vitesse à l'entrée de la gare de Genève.
Nicolas Coffet, c'est assez fascinant d'imaginer couper dans une locomotive, dans un train où entre Gland et Genève, en fait, on est en roue libre, ou du moins il n'y a aucun courant qui est qui est fabriquée. On voit qu'on parle beaucoup d'économie de l'énergie. Est-ce qu'on a encore des pistes encore? Est-ce qu'on est encore en train de chercher à comment gagner encore de l'énergie, encore économiser de l'énergie? Est-ce que tu peux nous dire deux mots un peu sur les projets que vous êtes en train de préparer?
Alors, on met effectivement l'accent sur l'efficience énergétique. On sait que le besoin en énergie, il va augmenter dans la société. Les voitures électriques, les centres de calcul. Pour nous aussi, au CFF, on va toujours développer l'offre. On compte aussi avec une augmentation du nombre de passagers d'ici 2050. Donc, l'offre à suivre aussi, on a plus besoin d'électricité. Donc, on essaye d'engager des ressources, des projets, de l'innovation pour réduire notre besoin d'électricité. Et ça ne concerne pas uniquement le département d'énergie, ça concerne l'ensemble des CFF. Les nouveaux bâtiments présentent des bilans énergétiques qui sont favorables par rapport aux anciens. On a des nouveaux systèmes d'éclairage qui sont moins gourmands en consommation. Et quand on parle de système d'éclairage, quand on pense à des gares de triage, par exemple à Lausanne ou à Zurich, c'est des éclairages qui sont extrêmement importants. On peut économiser beaucoup aussi à ce niveau-là. Nos centrales de gestion d'énergie sont aussi optimisées. On va aussi les centraliser pour mieux gérer le besoin d'énergie et la production et respectivement l'achat d'énergie. Mais le gros potentiel, il est quand même dans l'exploitation. Comme le disait le collègue mécanicien, on peut effectivement... En roulant de manière ciblée, on peut réduire la consommation d'électricité. Les nouveaux matériels roulants aussi sont nettement moins gourmands en énergie que les générations précédentes. Et ça se voit dans les faits, ça se voit dans les chiffres. Par rapport à 2010, lorsqu'on a lancé un grand programme d'économie d'énergie au CFF, on a économisé 630 gigawattheures. Et d'ici 2030, donc dans quelques années, on va arriver à 850 gigawattheures. Et là aussi, de nouveau, pour se donner une idée, 850 gigawattheures, c'est la consommation annuelle de 200 000 ménages. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir dans les économies d'énergie.
D'accord. Je crois qu'on pourrait encore parler longtemps d'énergie. En tout cas, je crois qu'on va s'arrêter là. En tout cas, maintenant, nos auditeurs pourront ne pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Ça, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast des CFF. Merci beaucoup, Nicolas Ecoffet, d'être venu nous expliquer un peu les coulisses de l'énergie. Et puis, si le sujet vous intéresse, vous trouverez davantage d'informations sur notre site internet. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un message à podcast@cff.ch. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Et à une prochaine. Au revoir.
Au revoir et merci.
Ce podcast est arrivé à son terme. Nous vous prions de bien vouloir descendre. Au revoir et à bientôt.